Quand on néglige sa jeunesse, c'est dans le fond qu'on tombe en dépression et qu'on est incapable de préparer son avenir.
Ça ne veut plus rien dire, Lucien. C'est des merdeux, des cons.
Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Du 3 au 5 février 2026 avaient lieu les élections des représentants étudiants au conseil d'administration des CROUS. Élus pour un mandat de 2 ans, les étudiantes et étudiants se présentent sur des listes des syndicats étudiants dans un des 26 CROUS de France. Souvent un terrain de combat politique, ces élections permettent aux représentantes étudiantes et représentants étudiants de participer à la prise de décision dans les universités de nos régions et de faire valoir les intérêts de la communauté étudiante au sein de leur fac. Dans cet épisode d'Univox proposé par Radio Campus Paris, nous revenons sur l'histoire des mouvements étudiants et l'intérêt d'une représentation des étudiantes et étudiants dans ces lieux décisionnaires autant administratifs que stratégiques. Pour en parler, Julie Andrieux interroge Roby Mordeur, ancien responsable de syndicat étudiant et co-président du groupe d'études et de recherche sur les mouvements étudiants, ou GERM. Une interview diffusée le 27 janvier 2026 dans la matinale de 19h sur Radio Campus Paris, que nous vous proposons ici en intégralité. Vous écoutez Univox sur vos Radio Campus.
Univox.
Roby Mordeur, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons parler d'élections étudiantes et c'est un plaisir de vous recevoir puisque vous-même, vous avez été élu en tant qu'étudiant au conseil de l'Université de Paris 8, de Paris 10. Vous avez été responsable de plusieurs syndicats étudiants. Puis, même après avoir quitté les bancs de la fac, vous y êtes toujours un peu resté en devenant professeur, puis chercheur. Vous avez étudié les mouvements étudiants, vous les avez commentés, enseignés. Vous avez même fondé le groupe d'études de recherche sur les mouvements étudiants, GERM. Et c'est donc un plaisir de vous recevoir pour comprendre au mieux la teneur des élections des étudiants au conseil d'administration du CROUS. Donc le CROUS, on en entend beaucoup parler dans notre vie étudiante, pour les restaurants CROUS, les résidences CROUS, pour les bourses. Mais le CROUS propose également de l'aide sociale, de l'accompagnement à l'accès à la santé, à la culture. En fait, le CROUS, ce sont des établissements publics qui ont pour mission l'aide et l'accompagnement pour tous les étudiants. Donc ces élections, commençons par le commencement, elles servent à quoi? On vote pour élire qui?
Alors d'abord, il faut rappeler que les œuvres universitaires, c'est d'abord des réalisations étudiantes, des associations étudiantes. Les premiers restaurants ou les logements universitaires étaient gérés par les associations générales d'étudiants. Et donc, il n'y avait pas d'élection. Sinon des élections internes aux associations, c'est à partir, donc je passe l'histoire, mais on oublie souvent cette dimension, c'est pas une administration, c'est vraiment une réalisation d'autogestion étudiante qui, vu le poids administratif nécessaire, est devenue un établissement public avec le temps.
D'accord.
Et donc, on est passé en fait d'un système de gestion d'un côté État, de l'autre côté organisation étudiante en tant que telle, représentative, à un système d'élection depuis 1971. Donc, les élections, elles ont lieu à deux niveaux. D'une part, au niveau des CROUS, donc des centres régionaux, donc c'est au plus près, hein. Et ensuite, les représentants étudiants élus dans ces CROUS, ils vont élire le CNO, donc le Conseil National, le CNUS, le Conseil National des œuvres universitaires. Et ce qu'il y a d'important pour les organisations étudiantes, c'est que, à partir du moment où un siège est obtenu au CNUS, ou au CNESER, mais on n'en parlera pas aujourd'hui, eh bien, on a le statut d'organisation représentative avec une subvention particulière à proportion du nombre de voix obtenues. Donc, pour les organisations qui se présentent, c'est un enjeu à la fois, un, être considéré comme organisation représentative, et puis évidemment, deux, dans le cadre d'une concurrence entre organisations, évidemment, être plus fort que les autres.
Bon.
Voilà, si vous voulez, le cadre dans lequel on est. Et évidemment, les enjeux, bah, c'est aussi la gestion au quotidien, le prix des tickets de restaurant, l'aide sociale, tout ce que vous avez dit. Bon, puisque c'est effectivement au plus près des étudiants, et c'est sans doute ce qu'il y a de plus concret pour les étudiants, puisque le CROUS, quand on est étudiant, bah, pour beaucoup, on y vit, hein, quand on est en CTU, on y mange, hein, donc il y a des cafétérias. Donc évidemment, c'est quelque chose de très concret.
Complètement quotidien, ça c'est sûr. Mais du coup, pour bien comprendre, là, donc, les étudiants vont élire d'autres étudiants par des syndicats. Et ce sont ces donc chaque région va élire différents syndicats. Et ces syndicats-là vont ensuite élire d'autres syndicats pour le niveau national ?
Ils vont élire, si vous voulez, on a, je crois, dans les 189, ou disons 200, 200 élus étudiants, un peu moins, mais 200 d'élus étudiants dans les CROUS. Et ensuite, ils vont élire, je crois qu'il y en a 7 maintenant à l'échelle nationale, ces 200 étudiants sont des grands électeurs, mmh. C'est comme pour le Sénat, et on va élire au CNO des représentants étudiants.
D'accord.
Voilà.
Et ces conseils d'administration, ils sont composés uniquement d'étudiants ou également
non,
d'autres personnes ?
Non, non, les conseils d'administration, bah, c'était à l'origine, c'était paritaire. Hein, c'était le principe de la parité entre, bon là c'est un peu moins paritaire, mais il y a des étudiants d'une part, et d'autre part, il y a l'administration des CROUS, c'est-à-dire l'État, bon, et puis évidemment les représentants du personnel, hein, qui sont élus aussi, puis ça compte. Donc, mais si vous voulez, l'idée, c'est d'avoir une parité. Parité, c'est pas égalité. Hein, c'est mmh. Il y a plusieurs corps qui sont représentés, là, sachant que l'administration aura en réalité le dernier mot. Voilà.
Ok, c'était justement un peu ma prochaine question. C'était quel est le poids réellement de ces voix étudiantes dans ce conseil d'administration ?
Alors, ces voix étudiantes, alors elles comptent parce que notamment au niveau régional. Parce que d'abord, les gens de l'administration, ben, c'est pas des méchants, hein, souvent c'est des anciens étudiants, ils veulent rendre des services. Et donc, il y a, plus les étudiants sont investis, hein, chez les élus, eh ben, mieux ça se passe, hein. C'est-à-dire que même s'il peut y avoir des différences, des différenciations, des oppositions, mais si vous voulez, au quotidien, on est tout de même dans le dialogue. Dans le dialogue où les étudiants, le rôle, c'est plutôt de pousser plus loin, hein, mm-hmm. Ce qui est fait, parce qu'effectivement, on a des budgets qui s'appliquent, qui ne viennent pas, qui ne sont pas du ressort des CROUS, hein, même des administrations régionales, mais c'est effectivement les budgets d'État. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on peut travailler. Et si vous voulez, les CROUS, en dehors des CTU ou des restaurants universitaires dans lesquels on est assez tenu par des règles nationales, hein, des règles nationales et puis des mesures financières, y a plein d'autres choses qui peuvent être faites, hein, au niveau culturel, au niveau d'aide sociale. Et là, c'est vraiment, dans chaque CROUS, il peut y avoir des politiques dans lesquelles les étudiants peuvent peser.
Ok, donc on retrouve vraiment, en fonction des différentes régions, les étudiants qui sont élus font vraiment que chaque CROUS est différent d'une région à l'autre. On ne retrouve pas forcément les mêmes services qui sont proposés grâce à ces...
Voilà, on a les mêmes services de base, si vous voulez. Et puis après, bah, y a qu'est-ce qui peut être fait ? Bon, une activité culturelle, ou est-ce que c'est une activité d'aide sociale plus importante en époque de précarité ? Donc là aussi... Bah, c'est des discussions. Est-ce que la culture doit passer totalement derrière parce qu'il y a là des urgences ? Bon, ça, c'est des discussions qu'on peut avoir partout, dans tous les domaines. Hein, mais là, effectivement, c'est important. C'est-à-dire, il ne faut pas voir ces élections ou cette vie institutionnelle comme étant simplement un lieu de concurrence, de compétition entre organisations. Ce qui est vrai au moment des élections, parce que c'est. Mais dans la pratique quotidienne, très souvent aussi, les étudiants, loin des médias, bah, les différentes listes, travaillent ensemble. Hein, à partir du moment où on est à l'abri médiatique, parce que de toute façon, les médias en général, ils s'intéressent à ce qu'ils pensent qu'il va faire du buzz, bon, et pas à ce qui se passe. Bah, dans un CROUS, comment c'est géré, ça n'intéresse pas beaucoup la grande presse. Hein,
Oui, c'est sûr que c'est pas. On n'entend pas beaucoup parler d'ailleurs.
Non. C'est, il a fallu, par exemple, le Covid pour qu'on découvre qu'il y a une précarité étudiante et, qu'il y a des, et que les organisations étudiantes, ce n'est pas que des manifestations ou des radios non mixtes ou le walk, hein, comme on a entendu, beaucoup entendu. C'était beaucoup le travail au quotidien, les urgences quotidiennes, les services, la solidarité.
Voilà. Oui, et la manière dont on peut vraiment faire bouger les choses. Et on en parlait un peu avant l'émission, il y a également d'autres élections pour des... On élit des étudiants qui vont représenter, mais cette fois pour chaque université. Quelles vont être les différences entre ces élections CROUS et ces autres élections pour les universités?
Alors, si vous voulez, les élections universitaires, donc c'est pour les conseils d'administration des universités et aussi des UFR ou des départements. C'est pas la même fonction, c'est la fonction budget de l'université, les diplômes. Là, on est plus... Donc là, ce sont des conseils composés d'étudiants. Depuis la LRU, depuis 2007, il y a une réduction du nombre d'étudiants, d'enseignants des deux corps, collège A, collège B, des personnels. Donc c'est vraiment ça, les composantes avec des élus. Et une fois qu'il y a l'élection d'un conseil d'université, il va y avoir désigné des personnalités extérieures. Donc ça peut être un chef d'entreprise, des syndicalistes, des associatifs, des personnalités locales qui vont s'investir ou pas hein, dans le travail de l'université. Donc là, mais là aussi, c'est important pour les organisations étudiantes parce que c'est un élu au CNESER. On a les conseils d'université, on a la même chose, hein. Mais là, ce n'est pas élu au même moment, c'est-à-dire tous les deux ans. Pendant deux ans, il y a un cycle, il y a tout le temps une élection quelque part. Ce n'est pas comme le CROUS où c'est tous les deux ans, partout, à peu près au même moment. Mais par contre, tous les deux ans, il y a une élection au CNESER, Conseil National d'Enseignement Supérieur et de la Recherche, l'équivalent du CNO au niveau universitaire. Et là, ce sont donc les élus étudiants dans ces conseils d'université qui vont élire... Hein, des élus étudiants dans le CNESER. Bon. Et là aussi, si on a un siège, si on décroche un siège au CNESER, on est considéré comme organisation représentative.
Et ces étudiants qui sont élus, ils sont élus donc, dans des syndicats? Et ce sont les mêmes syndicats que l'on retrouve?
Alors, pas forcément, parce que les élus sont élus par les étudiants. C'est pas dans les syndicats, hein, donc les syndicats ou les associations à vocation représentative ou n'importe quelle organisation peut présenter des listes. Syndicats, même des partis politiques, on voit des groupes confessionnels, peuvent présenter des listes, il y a des élections, et donc c'est les étudiants qui votent. Donc il n'y a pas de monopole, il n'y a pas, comme dans les entreprises, un monopole syndical de présentation.
D'accord.
Afternoon, you're out.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Comme on l'a compris, donc c'est une élection qui a de l'importance, mais il y a beaucoup, on le retrouve souvent, beaucoup de gens qui ne votent pas, qui ne participent pas. Comment est-ce que ça peut s'expliquer, ça ?
Alors d'abord, il faut tordre le cou à l'idée que les étudiants ne votent pas parce qu'ils ne s'intéressent pas à la chose publique, à la chose politique. Parce que quand on compare avec le vote étudiant au moment des élections présidentielles ou législatives, on dépasse de loin les 5, 10 ou 15% de participation aux élections étudiantes. Ça, dans les travaux qu'on a menés avec des entretiens, avec les archives de la Cité Mémoire étudiante, par exemple aussi, on a abouti à l'idée de que l'université, pas pour les étudiants, considérée comme un lieu d'exercice légitime de la citoyenneté. C'est-à-dire que, d'abord, ce n'est pas un lieu facile, il faut le connaître, on ne fait qu'y passer. Et donc, c'est très compliqué. Donc, à la limite, les enjeux politiques sont plus simples. On pourrait dire au présidentiel, là où il y a le plus de participation au vote en général et pour les étudiants en particulier. Donc, si vous voulez, ça, c'est un premier problème qui est celui de l'appropriation par les usagers de leurs établissements. Bon. Deuxième élément, c'est la concurrence. C'est-à-dire, quelle est la différence entre ces différentes organisations qui se présentent ? Quand on regarde les programmes de l'UNEF, de l'Union étudiante, de la FAGE, bon, c'est assez distinct de programmes de l'UNI ou des identitaires, bon là c'est certain. Mais grosso modo, c'est entre ces trois-là que ça se passe aujourd'hui. Eh bien, il n'y a pas énormément de différence. On avait fait un séminaire avec eux, puisqu'on travaille avec les organisations étudiantes, on les réunit. Et on avait, par exemple, sur la question de la rémunération des étudiants, allocation d'études, salaire étudiant, allocation d'autonomie. Il y a des différences de formulation, mais sur le contenu, c'est extrêmement proche.
Bon. Les trois ont la même idée.
C'est la même idée, d'ailleurs, qui est une idée ancienne, qui date déjà de quasiment un siècle. Le travail étudiant doit être rémunéré. Bon. Et pas simplement par des bourses. Et donc, c'est vrai que comme il y a plusieurs organisations, c'est un peu, chacun met en avant une telle ou telle formulation, puis on insiste sur des différenciations, des différences, parce qu'il faut se différencier du concurrent. Bon. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de thèmes qui sont communs. Beaucoup de thèmes, beaucoup de revendications. Ça se voit dans la pratique, ce que j'ai dit tout à l'heure, dans les pratiques de base. Donc, c'est vrai que un étudiant, il se demande pour qui voter, mais c'est la même chose pour les élections universitaires. Quelle est la différence ? Soit il connaît des gens, soit qui sont dedans, soit il y a des options plus ou moins politiques réelles ou imaginaires. Hein, bon, puis on vote pour ça, mais c'est vrai pour la plupart. Pourquoi je vais choisir entre des gens qui m'ont l'air aussi compétents l'un que l'autre ? On ne peut même pas dire, j'ai creusé un peu l'affaire, que ça soit une crise de légitimité, parce qu'on a des étudiants qui ne votent pas, mais par exemple, quand ils pensent que les militants ou les bénévoles qui se présentent, qui sont élus, ils sont compétents. Et d'ailleurs, quand on a un problème, on va les voir. Même sans avoir voté, sans être adhérent, parce qu'on sait que c'est les plus efficaces, etc. Mais quand je ne connais pas, pourquoi j'ai choisi l'un plutôt que l'autre ? C'est tout de même le cas de la majorité des gens. Donc ça pèse. Mais il faut savoir que ce n'est pas récent. Hein. Même à l'époque où il n'y avait qu'une seule UNEF qui gérait de fait, ou co-gérait les CROUS, hein, les congrès de ces organisations, où ils n'avaient pas plus de 10 ou 15% de votants, parmi les adhérents, il y avait beaucoup d'adhérents, hein, bon. Mais c'était pareil, bon, avec un autre système. Donc c'est vrai que là, il faut tordre un peu avec les idées reçues et voir quels sont les problèmes tels qu'ils se présentent, hein, pour essayer de résoudre.
Dans les différences, vous dites qu'il n'y en a pas forcément beaucoup entre les différentes listes, mais ça va être quoi les idées principales qui vont être portées pour ces prochaines élections ?
Alors les idées, moi ce que je vois, c'est effectivement la lutte contre la précarité. Mmh. Bon. Ça, on le voit très nettement et c'est totalement renforcé depuis le Covid. La question, effectivement, de l'allocation d'études, l'allocation d'autonomie, la rémunération, enfin, le fait que les étudiants puissent avoir des conditions matérielles décentes de faire leur travail d'étudiant universitaire et de ne pas être obligés de travailler en dehors au détriment de leurs études. Bon. Puisque c'est souvent le cas. Hein. Donc, là aussi, il y a le logement. Bon, on voit très bien le logement, le repas à 1 euro. Bon, ça a été obtenu, c'était une revendication. Donc, c'est... Après, c'est bon, qui va être le plus connu, qui est déjà en place. Ça peut être aussi des orientations nationales. On a dit que l'UNEF était plus proche du Parti Socialiste ou des écologistes. On a dit que la FAGE, même à un moment donné, on était plutôt à droite, alors que c'est plutôt... c'est pas le cas et c'est pas le... C'est ancien. On dit que l'Union étudiante est plus proche de LFI. Bon. Alors, c'est vrai que il y a des thématiques qu'on voit. Hein, c'est pas... Il y a des proximités qui existent, mais qui... dans lesquelles les organisations étudiantes ont de toute façon une autonomie réelle. Il n'y a pas véritablement de courroie de transmission, où je dis toujours que si courroie de transmission est liée, elle fonctionne dans les deux sens. C'est-à-dire que les étudiants membres des partis politiques, qui sont membres d'organisations étudiantes, sont les relais au sein des partis, des revendications ces associations.
Aussi parce qu'ils sont le plus proches des étudiants au quotidien.
Voilà, donc c'est un fonctionnement qui est dans les deux sens, si vous voulez, avec une préoccupation effectivement d'indépendance plus ou moins relative, suivant les organisations, suivant les moments. Mais c'est vrai que pour le grand public, y compris le public étudiant, très souvent, telle ou telle organisation étudiante est rattachée à telle ou telle... dans l'idée à tel ou tel courant, donc on peut ne pas voter ou voter parce qu'on a ça en tête, même si quand on creuse, c'est pas toujours vrai.
Mais donc pour des étudiants qui nous écouteraient, qui seraient pas forcément très politisés, quels arguments on pourrait donner pour dire que si c'est important d'aller voter à ces élections ?
C'est important parce que ça montre un attachement par rapport à tout ce qui peut être comme menace contre les élections. Au Conseil de Prud'hommes, dans les conseils des Prud'hommes, les élections ont été supprimées. Parce qu'il y avait, grosso modo, on était arrivé à 2/3 d'abstention.
Ah oui.
Oui, aux élections au Conseil de Prud'hommes. En soulignant ce que tout le monde oublie, c'est que du côté patronal, les abstentions étaient plus importantes que du côté salarié. Mais donc, on a résolu le problème, on a supprimé les élections, donc on supprime l'abstention, évidemment. Donc ça peut être une menace qui pèse comme argument, après tout, pourquoi on n'aurait pas des conseils nommés. Bon, puisque les étudiants... Bon, donc il faudrait que les étudiants votent. Et je dirais que le régime juridique... permet à n'importe quelle association d'étudiants de se présenter. C'est-à-dire que si on n'est pas content des listes qui sont présentes, rien n'empêche des étudiants de se réunir, de présenter une liste complète. Bon, je veux dire, trouver une dizaine ou une douzaine de noms par crous, c'est tout de même...
Bon, c'est pas... faisable.
C'est faisable. Si on n'est pas content de ce qui existe, on peut se prendre en charge. Et pas rester dans l'abstention de « ça m'intéresse pas, je suis pas concerné ».
Tous les étudiants sont concernés, c'est pour ça que c'est important d'aller voter. Et du coup, pour un mot de la fin, est-ce qu'on pourrait dire aux étudiants comment aller voter très concrètement, comment ça va se passer ?
Alors, c'est des élections qui avaient lieu avec des urnes, et maintenant c'est de plus en plus le vote électronique. Donc j'ai pas le détail en tête parce que c'est récent, ça a permis d'augmenter un peu, mais c'est pas une grande révolution, c'est-à-dire qu'on a changé la technique de vote, on a amélioré la participation, mais c'est vrai que tant qu'on n'aura pas réglé le problème de la vision de l'université comme lieu d'exercice légitime de la citoyenneté, hein, que ça soit par les élections, par l'engagement dans des organisations ou associations, et par les actions, par l'action, tant que ça ne sera pas réglé, évidemment, on n'avancera pas. Bon. Mais c'est compliqué, la démocratie c'est plus compliqué. Hein. C'est pour ça que souvent dans beaucoup de pays, on préfère avoir affaire à des gens qui pensent pour vous, qui choisissent pour vous. C'est plus reposant, c'est vrai.
C'est sûr, la démocratie c'est compliqué, ça c'est toujours le cas.
C'est la fin de cet épisode d'Univox avec Robbie Mordeur, ancien responsable de syndicat étudiant et co-président du GERM, le groupe d'études et de recherche sur les mouvements étudiants. L'interview a été menée par Julie Andrieux et réalisée par Joey. Animation et montage, Philippe Fischer. Rendez-vous la semaine prochaine à Toulouse avec l'association UPS in Space dans Univox, le magazine du monde étudiant sur vos radios campus.
Univox.